Aujourd'hui, la masterclass de Geneviève Brisac avec Caroline Brouet.
Bonjour à tous, bonjour Geneviève Brisac.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci au public qui est venu nombreux assister à cette masterclass à la BNF, qui est partenaire de France Culture avec le CNL, de ces masterclass littéraires que nous diffusons sur France Culture. Alors Geneviève Brisac, vous êtes une femme, jusque-là tout va bien, une femme écrivain ou une écrivaine, on reviendra sur la question tout à l'heure. Vous avez été très longtemps éditrice, vous avez d'ailleurs mené de front souvent en parallèle votre travail d'éditrice et votre travail d'écriture, d'abord chez Gallimard et puis très longtemps à l'École des loisirs, vous avez édité ce qu'on appelle de la littérature pour jeunesse, ça aussi on y reviendra sans doute à un moment ou à un autre. Vous avez fait paraître votre premier roman qui s'intitule toujours « Les filles ». En 1987, chez Gallimard précisément, un roman qui a été suivi d'un récit, 7 ans plus tard, un récit autobiographique intitulé « Petite au singulier » en 1994, cette fois à l'Olivier où paraîtront la plupart de vos écrits, que ce soit d'ailleurs des écrits de fiction, des romans, des récits, des contes, des recueils de nouvelles, alors on va en citer quand même quelques-uns, en 1996, par exemple, « Week-end de chasse à la mer », on le cite en particulier parce qu'il a reçu le prix Femina. Et puis, « Voir les jardins de Babylone »,« Pour qui vous prenez-vous »,« Les sœurs Delicata »,« Une année avec mon père »,« Dans les yeux des autres », qui alternent donc entre différentes formes littéraires. Et puis, il y a aussi des essais essentiellement consacrés à des femmes en littérature, à l'écriture féminine, sur Virginia Woolf, sur Flannery O'Connor, Karen Blixen, Jane Austen, Alice Munro, Grace Paley. Alors, par exemple, Loin du paradis, La marche du cavalier, et puis avec Agnès de Sarthe, VW, le mélange des genres qui était bien entendu sur Virginia Woolf. Et puis, vous avez aussi été co-scénariste sur un film de Christophe Honoré, c'était en 2009. Le film s'intitule « Non, tu n'iras pas danser » et je vais quand même donner le titre du dernier livre qui a paru cette année, « Vie de ma voisine » et je le donne d'autant plus volontiers qu'il en sera largement aussi question dans cette masterclass. J'ai une première question à vous poser, Geneviève Brisac. Est-ce que vous vous souvenez de la première phrase que vous avez écrite dans un livre? Est-ce que c'est quelque chose dont on se souvient, ça?
Dans un livre?
Oui, ou peut-être dans un carnet de notes, hein, qui est devenu ensuite un livre. Mais...
Je me souviens, c'est assez drôle, d'un conte que j'avais... C'est un des premiers contes que j'ai écrit, je devais avoir 12 ans, qui était l'histoire d'un cochon boulimique. Mort d'une indigestion de jambon, en fait. voilà, c'est mon premier, ma première tentative littéraire... Et donc, ça, je m'en souviens, oui. Je me souviens de comment j'ai commencé à écrire, en fait.
Ah, oui. Et ça, vous pouvez le raconter?
Je peux tout à fait le raconter. Donc, c'était encore avant, ça, ces premières publications dans mon journal. Mais, j'ai commencé à écrire pour mes sœurs. Et c'était pour... c'était pour faire des spectacles. Ce qui est tout à fait moderne. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui. On voit bien que les écrivains reviennent beaucoup à des formes de spectacles, on stage. Et donc, moi, mes premières tentatives, c'est des spectacles que j'écris avec mes sœurs, pour mes sœurs et moi, enfin, pour faire le petit chef un peu. Hein. Donc, je leur distribue des rôles et puis on fait des spectacles qu'ensuite, on va produire pour la famille et les parents qui sont obligés de regarder. Hein. C'est ça, le processus. Enfin, beaucoup de gens ont fait ça. Donc, on avait cette activité-là. Donc, j'écris des pièces. Mon autre activité, c'est d'écrire la suite de textes qui existent, par exemple La Légende des siècles. Pourtant, c'est long. Mais en fait, une fois que vous lisez La Légende des siècles, je la lisais à haute voix, toujours pour mon public favori. Et puis, il fallait bien continuer. Donc, j'ai écrit une suite à La Légende des siècles. Ensuite, on est passé à la bande dessinée, là encore très moderne. Et donc, on a écrit des aventures de Lucky Luke inédites, et puis des aventures des Schtroumpfs aussi inédites, qui étaient pas mal, assez féministes, parce qu'il y avait besoin de rectifier un petit peu. Donc ça, c'est aussi des activités littéraires.
Oui, mais alors, BD, dites-vous, et puis pièce pour être sur scène et pour épater la galerie, qui était en l'occurrence familiale à ce moment-là. C'est étonnant parce que je disais tout à l'heure que vous avez écrit des contes, des récits, des romans, des recueils de nouvelles, mais je n'ai pas vu de pièce de théâtre.
Si, si.
Ah, pièce de théâtre aussi. Vous avez une très, très longue bibliographie.
Bah, je suis très, très vieille, en fait.
Non, mais surtout, vous avez essayé tous les genres. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, là, cette fois, je vais écrire un roman, cette fois, je vais écrire une pièce de théâtre, ou l'écriture s'impose à vous de cette façon-là, disons?
Moi, j'aime beaucoup tout essayer, hein, de toute façon. Je parlais, là, il y a quelques jours, avec une amie qui organisait une rencontre. Elle m'a dit, j'ai peur que ça ne marche pas parce que tu essuies les plâtres. J'ai dit, moi, j'adore essuyer les plâtres. C'est vraiment une activité. J'aime beaucoup les premières. Les premières fois, et donc dans tous les genres possibles, oui.
Dans Petite, vous exprimez plus exactement votre reconnaissance pour votre grand-père. Petite est donc autobiographique, hein, je le rappelle. On va revenir sur ce personnage que vous avez créé des petites, et d'ailleurs même des les filles, qui Nook, Geneviève et Nook. Nook, c'est moi, écrivez-vous. Mais donc, vous exprimez votre reconnaissance pour votre grand-père, Max Baruch. Est-ce que vous lui devez de vous être mise à écrire très tôt, comme vous nous le racontiez ?
C'est vrai, je pense qu'il m'a donné... D'une part, c'était un homme qui aimait la littérature, qui aimait profondément les livres, qui avait, je pense, assez horreur du pouvoir et de l'autorité. Pas du pouvoir, pas de l'autorité, son examen, en tout cas de la violence. Et bien qu'il ait... en tout cas, ça avait été un soldat, ça avait été un officier, et pourtant, il détestait... la violence entre les gens. Quand j'ai été malade, hein, puisque l'anorexie, c'est une maladie psychique très, très douloureuse.
Et dans Petite, vous racontez cette anorexie.
Et je raconte cette anorexie dans ce livre. C'est vrai qu'il a été la personne vers qui j'ai pu me tourner parce que, il ne jugeait pas. Ça a toujours été, c'est une grande qualité de lecteur et d'écrivain, je pense. Il ne jugeait pas et il était là. Qui est aussi une grande qualité de lecteur et d'écrivain. Et donc, aller chez lui et plus tard lui apporter des livres, et plus tard, quand il n'a plus pu lire, lui apporter des cassettes enregistrées de livres. Je me souviens encore de lui avoir apporté Enfance de Nathalie Sarraute, qui avait été enregistrée et qu'on a écouté ensemble. Donc, c'est, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est tissé entre nous autour des livres. Il avait ses livres à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait, étaient tous couverts avec du papier cristal. Et donc, j'ai encore souvenir de cette bibliothèque énorme recouverte de papier cristal.
Et Geneviève Brisac, dans vos livres, vous donnez quelques éléments qui permettent aussi au lecteur de comprendre finalement ce qui a fait de vous une femme écrivain. Vous en donnez dans différents endroits. On en trouve dans La Marche du Cavalier, qui est ce recueil de textes sur d'autres femmes écrivains, des femmes étrangères. En l'occurrence, vous en donnez dans un texte que vous avez écrit il y a quelques années, que vous avez lu à la Villa Gilet. Je vais citer deux passages et que j'aimerais que vous nous commentiez. Donc, dans le texte que vous avez lu à la Villa Gilet, vous écrivez « J'adore écrire ce qu'il ne faut pas, dire les choses qui sont derrière les choses, ouvrir la porte interdite qui mène aux coulisses, ricaner sottement devant les mensonges utiles des gens comme il faut. » Et puis, dans La Marche du Cavalier, vous dites « Écrire, deux points, nommer ce que nous vivons d'innommé et d'innommable, de confus, écrire, deux points, interroger cet état somnambule qui est presque toute vie, nous ne savons ce que nous faisons et sommes bouts de bois ramés flottillant sur la mer, l'enfant en nous le sait. » Est-ce que ce sont de bons résumés de ce pourquoi vous pensez écrire ?
Alors, il faut quand même constater une chose, c'est qu'on s'exprime de manière plus précise à l'écrit qu'à l'oral.
Donc, en fait, on peut dire plus de choses, alors. Vous pouvez développer.
C'est vrai. Oui, c'est vrai que je pense qu'écrire permet d'exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer socialement, dans la nation, dans la vie sociale, d'ailleurs, tout simplement. Ce qu'on ne peut pas dire, enfin, ce que moi, je ne pouvais pas dire... pour être plus précise et revenir un peu à la famille. Moi, j'ai été élevée dans une famille où on ne parlait pas, où on parlait très peu, où il y avait beaucoup de secrets. Quand on parlait de la lecture du journal, on parlait des événements du monde, mais c'est Flannery O'Connor que j'ai beaucoup fréquenté, qui est un écrivain que j'adore, qui disait « Dans ma famille, les seuls sentiments licites étaient l'irritation et l'agacement. » Je ne sais plus quel est le second. Et c'est assez à ça, je peux dire ça, oui, l'irritation et l'agacement, c'était les sentiments qui étaient dominants chez nous. Ça rend quand même un peu craintif, hein. C'est d'un enfant qui se rend compte que il y a vraiment beaucoup de choses dont il ne faut pas parler, et d'ailleurs il ne faut pas poser de questions. Et c'était, c'était également lié aux origines de cette famille. Donc c'était une famille juive, la famille de mon père, une famille juive assimilée, et dont on ne parlait jamais de ce qui s'était passé, pendant la guerre déjà, et puis ce qui s'était passé avant encore moins, parce qu'on était tourné vers l'avenir.
Donc écrire, c'est mettre des mots là où les mots ne sont pas dits.
Absolument, c'est vrai.
Et la colère est une bonne conseillère? La colère, le chagrin, on parlait d'irritation et d'agacement, ce sont deux bons conseillers en littérature?
Ben, ça ne se commande pas vraiment, hein, mais la colère est certaine. Ben, j'ai écrit dans La marche du cavalier que j'écrivais cet essai animé par deux
sentiments.
Sous le
coup de la colère et sous le coup du chagrin. Ou d'ailleurs, ou sous le coup du chagrin. Alors, ce sont les premiers mots. Oui.
Voilà, le chagrin et la colère se battent. À vrai dire, chacun de nous sait très bien que la colère, c'est plus agréable que le chagrin. Donc, on préfère la colère, finalement. Mais parfois, le chagrin l'emporte sur la colère. Mais quand on écrit, à vrai dire, on échappe à la fois au chagrin et à la colère. On entre sur un territoire, c'est à ça que servent les livres, aussi bien quand on lit que quand on écrit. Le paysage s'apaise et la musique surgit, en fait.
Vous dites que ça sert à ça. Ça doit être utile, ce que vous écrivez, à quelque chose? À vous, peut-être, d'abord, hein, pour commencer. Mais...
L'utilité n'est pas un bon mot. En fait, on est toujours piégé parce que ça sert pas. De toute façon, quand on sait faire qu'une chose vraiment, il vaut mieux que ça serve au moins. Enfin, il vaut mieux savoir le faire.
Vous ne savez pas faire qu'une chose puisque vous étiez éditrice aussi.
Ben, c'est un peu la même chose. Éditrice, j'ai toujours comparé ça à une forme de jardinage finalement. Ça consiste à percevoir chez les autres la possibilité d'un talent d'écriture qu'on sait avoir en soi. Et donc favoriser sa floraison, quoi, finalement, dans la durée, dans la confiance, dans la durée. Alors, il y a une chose particulière qui est liée au fait que je me suis... qu'il y a la question des femmes. Il est certain... Enfin, La marche du cavalier, ça n'est que autour de femmes écrivains. Et il est certain qu'une jeune fille, une enfant, une jeune fille, une jeune femme qui veut écrire est moins encouragée... Enfin, a moins confiance en elle pour devenir un écrivain, même si c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais ça reste quand même profondément vrai qu'un jeune garçon ou qu'un jeune homme qui se dit « je serai Chateaubriand ou rien, je serai Balzac ou rien, je serai Victor Hugo, je serai Proust, etc. etc. » Une fille, elle sait très... Enfin,
une fille, elle ne se dit pas ça quand elle commence?
Non. Non, elle sait que Victor Hugo, ça va... Même si j'écrivais la suite de La Légende des siècles, je me rendais compte quand même que le coffre n'était pas tout à fait...
Vous l'avez fait, c'est vrai.
La barbe. et d'ailleurs, Virginia Woolf a expliqué ça très très bien dans Une chambre à soie, je crois, et de nouveau dans Trois Guinées. Elle explique que pour écrire, une femme a besoin de se fabriquer un instrument adéquat, mais qui n'est pas l'instrument dominant, l'instrument principal dans une société qui reste très largement patriarcale et masculine. Il faut qu'elle se le forge en s'appuyant sur des modèles, des femmes écrivains. Or, ce qu'elle a fréquenté depuis l'école, c'est des hommes. Mais c'est vrai aussi dire en musique, en peinture, etc., etc. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais enfant ou à l'école, j'aimais effectivement Montaigne, Racine, Apollinaire, Baudelaire, Proust, enfin après, mais des femmes très peu.
Et c'est pour ça que vous êtes allée vous appuyer sur les lectures de femmes écrivains et que vous avez d'ailleurs après écrit sur elles.
Et puis il y a aussi une autre raison, c'est que les femmes ont des choses à raconter que les hommes... Enfin ça c'est le côté culturel, et qui a évidemment beaucoup évolué depuis 30 ou 40 ans, mais je me souviens très bien quand j'ai écrit Week-end de chasse à la mer, soyons personnels.
Raconte... un week-end avec, entre une mère seule, qui élève seule son fils et son fils.
Eugénio, donc. Et cette mère, et donc, elle est en train de se séparer du père, et elle se rend compte que tout le monde va vouloir que la garde soit attribuée au père. Et parce qu'elle n'est pas une bonne mère, parce qu'elle ne sait pas y faire, parce qu'elle est à moitié dingue, elle ne saura pas, quoi. Et puis, parce qu'elle est entourée de voix qui lui disent qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle ne saura pas l'être, etc., etc. Et puis, Et puis c'est la semaine de Noël. C'est ça qui est très important. Moi, j'écris beaucoup sur Noël, bien que je déteste Noël, mais en fait, j'aime beaucoup tout en détestant. Et comme beaucoup d'écrivains, c'est un peu comme, Carson Maculaire, c'est la neige, si vous voulez. Enfin, moi, j'ai la même chose avec la neige.
Ah, j'allais vous dire, Noël, est-ce que c'est la famille ou les jouets? Ben, c'est la neige, d'accord.
Voilà. cette semaine de Noël, c'est des fêtes. Et quand vous êtes seul, elle est seule avec son petit garçon, donc elle dit à Eugénio, on va faire Noël tous les deux, et dit, ça va être super, hein. Tous les deux autour d'un sapin avec toi qui est toute triste, ça va pas être. Et elle se dit, c'est vrai, mais on va faire ce que tu veux, on va inventer. Et là, il y a vraiment un rapport entre l'enfance, disons, la création littéraire et ma conception de la place des femmes dans le monde, qui est on va inventer une autre manière de faire, on va inventer d'autres mots, on va inventer d'autres jeux. On va inventer autre chose.
Et c'est là qu'on trouve le lien entre votre écriture pour adultes, on va dire, puisque c'est comme ça que c'est présenté dans tous les cas dans le grand public, et l'écriture pour jeunesse, puisque les thématiques de vos romans ou de vos essais ou de vos écrits en général, on va dire, se recoupent. Il y a toujours des histoires de femmes, toujours des histoires d'enfance, toujours des histoires. D'ailleurs, sur le site de la Maison des écrivains, on vous présente d'une façon qui, je pense, vous présente assez bien. On dit né à Paris, vous, Geneviève Brézac, né à Paris dans une famille d'intellectuels de gauche anglophile. Une enfance au quartier latin et de longues après-midis au jardin du Luxembourg influence largement son paysage romanesque. La lecture quotidienne par des nurses et des grands-mères de Winnie l'ourson, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles, donne à ce Luxembourg des airs de jardin de Kensington. Mmh. Ça dit pas mal de choses de vous, en fait, si on s'arrête sur un certain nombre de mots. Intellectuel de gauche anglophile, une lecture quotidienne qui montre à quel point la lecture est importante pour vous tout le temps. Et puis des références à partir de quoi votre imaginaire va naître, et des références qui sont liées à l'enfance.
Alice
pour ça,
des Merveilles,
les femmes et l'enfance.
Oui, c'est vrai. Alice au Pays des Merveilles, c'est un archétype de ça. C'est quand même c'est le puits en descend, c'est l'autre monde, c'est de l'autre côté du miroir, c'est le langage au centre de tout. J'étais longtemps convaincue. En fait, effectivement, enfant, que ça soit bien ou mal, très rapidement, j'ai pas fait très bien la différence entre qu'on inventait et ce qui était la réalité. Par exemple, il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle Patapouf et Filifère d'André Mauroy. Personne ne connaît, mais moi, j'aime beaucoup ce livre. Et donc, je ne vais pas raconter intégralement Patapouf et Filifère, bien qu'en fait, j'aimerais assez le faire, mais je sens que la fausser cette masterclass.
On le fera après. Ouais.
Et donc, dans Patapouf
dommage
et
pour les éditeurs de France Culture.
Ce qui, pour une fille anorexique, n'est pas absolument anodin, il faut bien reconnaître. On se doute bien que ça a à voir, hein, Patapouf et Filifère. Deux petits garçons trouvent un escalator dans la forêt de Fontainebleau. Je ne vous dis pas comme j'ai cherché cet escalator. Mais, et pas trouvé. Donc, il y avait cet escalator dans la forêt de Fontainebleau, qui existe sûrement, mais que je n'ai pas trouvé, descendait, et en bas, il y avait deux peuples, les Patapouf et les Filifères, qui avaient deux modes de vie. Et c'est là que l'anthropologue en moi était très intéressé, extrêmement complémentaire. Les Patapouf étaient hédonistes, inventaient des ravissants objets très confortables, design contemporain, oreiller moelleux, etc., etc., nourriture délicieuse. Et ils étaient un peu ronds, évidemment, car c'était des Patapouf. Et les Filifères, eux, étaient très maigres, très secs, très puritains, comme mes oncles. Et les femmes étaient très maigres, très sèches et très dures. Et par exemple, pour ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'ils avaient des lits en métal, qui étaient des tubes en métal, et quand le réveil sonnait à 6h15, aujourd'hui c'est un téléphone, eh bien le fond du tuyau en métal s'ouvrait et il tombait dans un baquet d'eau glacée, ce qui vous met tout de suite en forme. Et moi je trouvais ça très intéressant comme conception, deux conceptions du monde. À l'époque, j'avais 9 ans, mais je n'ai pas tellement progressé, je pense.
Oui, en fait, c'est pour ça que vous nous racontez ça.
Ouais.
Finalement, vous en êtes resté à
oui.
ce...
Alors, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Et les Filifères ont immédiatement gagné, évidemment. Le problème.
On écrit, Geneviève Brézac, sur ce qu'on ne trouve pas. Donc, par exemple, un escalator en forêt de Fontainebleau. Tout à l'heure, vous nous disiez, on écrit sur ce qui était caché ou non dit dans une famille. Donc, on écrit déjà aussi à partir de ce qu'on est. De soi, en partant de soi.
Voilà, une jeune fille qui a du mal à exister.
Ce qu'elle est. Mmh. Et puis, vous dites aussi que, dans Petite, on écrit avec ce qu'on a oublié. Et c'est quelque chose que vous répétez dans la marche du cavalier.
C'est vrai. Je crois que... Alors, pour une raison un peu plus sérieuse que ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on écrit avec l'inconscient, ce qui est tout le problème des écrivains. C'est-à-dire qu'au départ, on a un don, je pense.
Ah, on a un don.
Ah oui, c'est nécessaire. Hein. Pour toutes les activités humaines, il faut un petit don quand même, par exemple. Moi, je pense pour le bricolage,
vous n'avez pas de don.
On ne va pas avoir tous les dons. Hein. Donc, il y a un don, le langage, par exemple, un rapport au langage. La famille, le milieu, etc., y contribuent, hein, bien sûr, mais donc il y a un don. Et puis, il y a du travail qui vient se mettre sur le don. Et puis, il y a des pratiques. Et puis, il y a l'inconscient. On ne peut pas écrire si on n'est pas relié à son inconscient. On ne peut pas écrire si on n'est que relié à son inconscient, évidemment. Donc, c'est cette très difficile articulation de lien avec l'inconscient, sans quoi il n'y a pas de création du tout, dans aucun domaine, hein, ni en peinture, ni en musique, ni en rien, ni en littérature. Et puis, le façonnage d'un objet, en l'occurrence pour moi la littérature, donc on ne sait pas comment, on ne sait pas... Il y a à la fois cette chose qu'on ne sait pas ce qu'on va écrire et qu'on sait très bien ce qu'on va écrire, et c'est les deux en même temps.
Et vous savez, quand vous commencez un livre, on va dire comme ça, on va l'appeler comme
un
ça,
truc.
Un livre, Geneviève Brézac, comment il finit, par exemple, ou comment il va se dérouler?
Ça dépend.
Parlez de pratique, plongeons un peu dans la pratique.
Ça dépend des fois, en fait. Ça dépend des fois. Mon premier livre, Les filles... Je ne savais pas que j'étais en train de l'écrire. Les premiers livres ont cette caractéristique, et vous le savez, Caroline, qu'on ne sait pas qu'on est en train de les écrire, puisque c'est un premier livre. C'est qu'au second qu'on sait que ça va être un livre, puisqu'on a déjà publié...
L'expérience du premier.
Voilà, exactement. Alors, ce qui importe, c'est la... Comme l'on dit d'ailleurs beaucoup, il y a une première phrase. La première phrase, elle est évidemment décisive, parce que ça fonctionne un peu comme un tricot. Donc, il faut une première phrase, comme un... Et puis, il faut une scène. Je pense qu'il y a une vision, il y a un paysage et une ligne de mots. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un tissage, je crois. Donc, il y a un paysage, une vision. C'est Giono qui disait, je me mets devant ma fenêtre et j'écris ce que je vois ou ce que j'entends.
C'est ce que vous faites? Vous mettez devant une fenêtre?
Pas nettement, je peux me mettre devant un mur. Je préfère plutôt un mur, d'ailleurs, mais ou devant une fenêtre.
En fait, il n'y a pas de règle.
Non.
Est-ce qu'il y a une méthode de travail? Je ne sais pas, des longues séquences, des horaires quotidiens, réguliers.
Alors, c'est recommandé, mais d'ailleurs, vous trouvez ça partout. Il est recommandé, comme pour toutes les pratiques humaines.
Ah, mais je ne vous demande pas s'il est recommandé. Je vous demande ce que vous, Geneviève Brézac,
moi, je ne fais rien de ce qui est recommandé.
Alors, dites-nous ce que vous faites, vous. C'est ça qui nous intéresse ce soir.
Alors, je crois que c'est Italo Svevo qui disait un truc. En fait, j'ai la tête remplie de phrases. Donc, Italo Svevo se bagarre avec Giono, qui parle à Flannery O'Connor, qui discute avec Carson McCullers.
Ça, c'est Geneviève Brézac.
Voilà, et le résultat, c'est Geneviève Brézac. Donc, une personne un peu affolée, quoi. Et donc, Italo Svevo disait, on a besoin d'au moins trois vies. Une pour vivre, une pour travailler, et une pour écrire. Et j'ajouterais pour les femmes peut-être une quatrième, parce que c'est vrai que ça, c'est pour un homme. Mais c'est vrai que, comme les femmes ont en plus la responsabilité de la maison, de la vie des autres, etc., ça en fait quatre vies. Donc, comment vous voulez vous en sortir? Mais on ne s'en sort pas.
Et donc, comment faites-vous?
Je ne sais pas.
Si, vous vous y mettez.
Je m'y mets, oui, voilà, exactement.
Est-ce que vous vous y mettez à des horaires réguliers? Est-ce que vous allez travailler?
Non,
parce que vous allez au travail?
C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais salariée jusqu'à ce qu'on me renvoie, on me licencie. Et donc, j'avais besoin de ça. C'est comme je suis quand même un petit peu folle, et c'est bien pour moi d'avoir un cadre et d'aller au travail. Donc, depuis que je ne vais plus au travail...
C'est plus difficile.
C'est plus difficile.
De vous y astreindre, d'avoir cette discipline.
Non, je dois lutter plus contre des démons. C'est la lumière du jour permet de lutter contre les démons. La descente au fond du puits, c'est dangereux.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez le sentiment que vous allez pouvoir donner un peu plus qu'à d'autres moments, grosso modo de l'inspiration avant le travail? Ou est-ce que c'est impossible, ça n'existe pas? Ça n'est que du travail en permanence, de l'écriture, de la réécriture, de la correction d'écriture?
Ah non, je pense qu'il y a une part de rêvasserie gigantesque. Il y a une grande part de l'activité de l'écrivain, c'est de rien faire, tout le monde le sait. Donc c'est encore difficile, parce qu'il faut encore trouver une vie supplémentaire pour ne rien faire.
Donc, ça fait la cinquième.
Et oui, non, parce évidemment que les livres, ça s'élabore en rêvassant, en marchant dans la rue, en voyant passer quelqu'un d'étrange, exactement comme un dessinateur, un écrivain passe sa vie à s'imprégner de vision, puisqu'il s'agit de comprendre, de comprendre l'être humain finalement. Il s'agit, le boulot de l'écrivain, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un humain en creusant lui-même et en observant les autres et en racontant des histoires. Vous savez, c'est ce que faisait Isaac Bashevis-Singer, où qui allait dans son Délicatessen et il regardait. Et puis, progressivement, comme après il avait des lectrices, beaucoup, il les donnait rendez-vous dans le Délicatessen et là, il leur faisait raconter leur histoire. Et hop.
Mais vous ne faites pas ça. Vous observez les autres, vous allez me flâner dans la rue.
Oui.
Vous lisez
vous
beaucoup,
beaucoup, beaucoup par
vous
exemple.
Écoutez de la musique, vous regardez des tableaux. Est-ce que les autres arts vous inspirent aussi?
La peinture, oui. La peinture.
Il en est d'ailleurs question dans les livres.
Oui, j'adore. J'ai plusieurs fois, j'ai été invitée à écrire des textes sur des tableaux. J'adore ça. C'est absolument merveilleux.
C'est le fameux paysage dont vous parliez. Il faut une scène au départ pour écrire un livre. Et cette scène peut être un tableau.
Ah oui, ça peut être un tableau. Oui. Oui, entrer dans un tableau, c'est une chose. La musique. Je ne pourrais pas dire que je suis trop mauvaise musicienne pour. Ça, c'est plutôt une hantise. Le fait d'être mauvaise musicienne, de ne pas avoir appris, ça veut dire que je suis une autodidacte en musique, et donc, mais j'adore la musique. Je pense que la musique est l'art suprême. Donc,
Vous disiez, Geneviève Brézac, que le travail de l'écrivain, c'était à la fois d'aller en soi, un travail d'introspection. On part de soi.
Creusement.
On creuse. Et puis, de comprendre le monde, donc d'observer aussi. Mmh. Je vais vous citer un petit passage de vous, dans La Marche du Cavalier, où vous racontez ça. Vous parlez de l'aspiration à la légèreté, à la transparence, mais aussi à la précision, à l'exactitude. Ce désir qui toujours fut le mien, écrivez-vous, de rétablir un équilibre, de rendre justice à la beauté cachée, de dire ce qu'il ne faut pas, de rappeler ce qu'il y a d'enfance en chaque adulte et de sagesse en chaque enfant. Oui, tout cela peut prendre sa source, son élan, son inspiration dans un seul jardin, dans une seule ville, dans un seul pâté de maison. Il faut être passé 10 000 fois par le même chemin pour commencer à vraiment le voir, pour commencer à véritablement savoir où l'on met les pieds, où l'on pose ses mots, ses images, d'où naissent les rêves. Là, en lisant ça, j'ai quand même plus le sentiment que l'introspection domine dans votre cas. C'est votre jardin que vous travaillez. C'est la famille, c'est les sœurs, c'est le père, une année avec mon père, c'est une mère.
Et la famille, c'est sûr.
C'est la famille qui
la
est
famille,
là.
D'ailleurs, moi, je pense que pour presque tous les individus, la famille, enfin presque tous.
Oui. Mais chez vous, c'est dit. C'est un jeu.
C'est mon terrain.
C'est votre vrai. Terrain de jeu. Mais assumé, revendiqué.
Je pense que si je veux écrire le roman d'un astronaute, je manque d'éléments de perception, de sensation, de vision. Je ne saurais pas comment faire. Je suis un écrivain du percept, comme disait Gilles Deleuze. Je ne saurais pas m'y prendre. Je raconte la vie d'un pirate à travers les océans. C'est pareil, il me manque des trucs. Pourtant, j'aime bien les bateaux, mais d'un soldat à la guerre, c'est pareil. Je n'ai pas envie de le faire. J'ai envie de creuser ce que je connais et que les autres ne connaissent pas nécessairement.
On parlait tout à l'heure de la distinction qu'on fait dans le grand public entre littérature pour adultes et littérature jeunesse. Écrire des livres pour adultes, écrire des livres pour enfants, est-ce que la distinction est pertinente pour vous?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des livres pour enfants, des albums pour les petits, et puis c'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner Madame Bovary à un enfant de 5 ans. Donc, c'est certain qu'il y a des livres pour les enfants et il y a des livres pour les adultes. Il y a de la littérature classique et de la littérature contemporaine. Moi, j'ai essayé de faire exister une littérature pour la jeunesse, pour les adolescents ou les préadolescents, parce que je crois que... Parce que la lecture, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Je pense que la lecture sauve le monde, au même titre que beaucoup d'autres choses. Et donc... Comment est-ce qu'on devient un lecteur? On devient un lecteur en faisant cette expérience du bonheur de lire, que tout le monde, c'est une expérience que tout le monde ne fait pas du tout. Et donc, pour ça, il faut trouver le livre pour la bonne personne. C'est ce que font les libraires, les bibliothécaires.
Mais là, vous parlez de l'éditrice. Moi, je vous parle du point de vue de l'écriture.
Ah oui.
Comment vous choisissez de vous adresser aux uns plus qu'aux autres? Est-ce qu'il y a une différence même dans la façon dont vous travaillez, dont vous écrivez? Qu'est-ce que ça change pour vous
Ça change, c'est un instrument. C'est comme si vous disiez à un musicien, qu'est-ce que ça change pour toi de jouer de la guitare ou du piano?
C'est deux instruments très différents, alors que là, pareil. Vous parlez de l'écriture.
Non, mais quand pour le musicien, il joue c'est le même musicien qui joue de deux instruments. Quand je joue,
pour adultes ou pour la jeunesse, voilà, exactement, ce sont deux instruments.
C'est pas la même octave, quoi. On va dire, c'est pas exactement les mêmes mots. Je me mets pas au même endroit de moi-même. J'ai plein d'étages, comme ça. Et
il y a du monde.
Il y a du bruit. En fait, voilà, exactement. Voilà, le résumé, c'est il y a du monde. Et ben, donc je vais chercher des enfants. Hein. Voilà. Moi, ça tombe bien. Comme souvent, je me sens seule. Heureusement qu'il y a du monde.
Et justement, quand vous dites que vous vous sentez seule, mais est-ce que vous avez aussi besoin de solitude, Geneviève Brézac ? Une chambre à soi, vous qui avez beaucoup travaillé sur Virginia Woolf. Est-ce que vous avez un lieu à vous ? Est-ce que ça fait partie d'un rituel ?
Je n'ai jamais tellement réussi à avoir un lieu à moi. Dès que j'ai un lieu à moi, je le détruis avec énergie pour qu'il soit pour le partager. Donc, non, je ne suis pas une bonne solitaire. Moi.
Même dans l'écriture ?
Ah, je ne peux pas non plus écrire en...
Ben c'est ça la question.
Je veux dire qu'on me fiche un tout petit peu la paix, mais fondamentalement, c'est vrai que je n'aime pas la solitude. C'est moche, hein.
Non, ce n'est pas de... est-ce que vous avez des carnets ?
En même temps, quand je vous dis ça, je réfléchis, je me dis en même temps... ce qui est très compliqué, c'est un truc que disait Nathalie Sarraute, il faut toujours que je vienne accompagner quand même, et que je cite mes sources... Nathalie Sarraute disait, je vous dis ça, mais je pourrais vous dire le contraire. Et c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'au moment où je vous dis, je déteste la solitude, je me dis, mais en fait, j'adore la solitude. J'ai passé des années toute seule. Le problème, ce n'est pas tellement la solitude, c'est le passage entre, le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, une fois que vous êtes seule, vous êtes très bien. Le problème, c'est l'abandon. Ce n'est pas la solitude. Une fois que, si vous avez coupé tous les ponts, vous êtes seul, ben, c'est bien. Mais devenir seul, c'est pas bien. C'est triste.
Est-ce que vous avez des carnets sur lesquels vous écrivez ?
Ouais, j'ai des tonnes de carnets.
J'en ai là. Des carnets qui servent à faire des listes de courses aussi bien qu'à prendre des notes pour les futurs romans, ou c'est vraiment des carnets dédiés à l'écriture littéraire ?
Ça se mélange toujours, en fait. Parce que, par exemple, je commence très régulièrement des journaux. Donc, j'ai des placards remplis de journaux intimes gigantesques. Mais, ou comme
ah, pour... vous continuez de tenir des journaux intimes ?
Oui, oui. Mais en même temps...
Je dis continuer parce que c'est souvent une activité qu'on a quand on est
adolescent. Mais il peut y avoir 6 mois d'interruption. Et puis, dans ces journaux, je peux aussi bien, effectivement, noter je ne sais pas ce que je note, en fait. Ce n'est pas des idées, parce que je n'ai pas tellement d'idées.
Des mots, des phrases ?
C'est des phrases, des mots, des visions, des impressions, Oui, des phrases, en fait.
Dont vous vous servez ensuite, ou finalement qui ne servent
non, parce qu'en fait, quand je relis, je comprends rien.
D'écriture.
Ah. Donc, qu'est-ce que ça pouvait bien être ?
Je vous pose cette question, parce que justement, dans Petite, vous dites qu'écrire un livre, c'est comme faire le ménage. On fait les choses qu'on aime bien, les piles bien propres, les objets à leur place, leur décor reconstitué, le lit et la vaisselle, et puis pour le reste, les choses pénibles, il faudrait trier, peut-être jeter les hauts placards, ça attend à plus tard. Est-ce que les carnets, c'est un peu la même chose ? C'est des choses qui permettent de trier, de mettre de côté, puis en fait, finalement, le reste vient plus tard.
Comme un écrivain, c'est une passoire, quoi. Donc comme on a toujours l'impression qu'on perd tout, que tout s'en va, qu'on n'a encore rien gardé, qu'on a oublié, une journée perdue, c'est tout le temps, tous les jours on n'écrit pas, journée perdue. Et donc on se dit, il faut que je retienne, comment je fais pour retenir ? Alors il y a le filet à papillon, cher Nabokov, et puis il y a des carnets où on note des choses, mais en fait, ça ne sert pas. Ça sert à se rassurer, je crois.
Et vous avez besoin d'être rassuré ?
Ouais.
Avant d'écrire ?
Tout le temps. Pas avant, pendant, après.
Est-ce que vous écrivez sous la contrainte ?
La menace ?
Non, mais il y a un livre que vous avez écrit qui s'appelle 52 ou La seconde vie, où vous êtes astreinte quand même à écrire une histoire par semaine pendant un an. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a amusé ?
Ah bah ouais.
Est-ce que c'était un jeu ou est-ce que c'était un dispositif ? Est-ce que c'est une
méthode c'est un dispositif, oui, bien sûr.
Mais amené à être reproduit pour d'autres...
Bah, c'est-à-dire que
ou juste une expérience.
Le problème des dispositifs, c'est qu'il faut les installer fermement et il faut y croire. Parce qu'en fait, dans l'écriture, je disais qu'il y avait le don, il y a le travail, il y a une troisième chose dont je n'ai pas parlé, qui est la foi. Et la foi, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est très, très important. Si on ne croit pas qu'on va écrire un livre, on n'écrit pas de livre. Et même avec du travail et le don, Donc il faut croire. Alors pendant longtemps, j'avais l'image que les livres étaient préécrits. J'aime assez cette histoire d'ailleurs, que les livres étaient préécrits dans un ciel platonicien des idées et que donc l'écrivain, moi en l'occurrence, je devais décrocher. Oui, voilà, exactement. Chopin, ben aujourd'hui, je vais écrire maintenant, enfin cette année, pendant 5 ans, je vais écrire celui-là. Mais, considérant qu'à la fin de ma vie, ben normalement, je devrais avoir, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, quoi. À la fin, j'aurai ouvert toutes les cases et il y aura tous les livres. Et pour remarquer, pour, comme une métaphore juive, c'est moyen, mais c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Pendant, à un moment donné, j'ai écrit des chroniques pour... J'ai fait un truc qui s'appelait la semaine de libération, la semaine de l'écrivain de Libération, du journal Libération. Et donc, il fallait tous les jours trouver un fait, un événement, une histoire, un regard, un cadrage, etc., pour Libération. J'adore faire ça. C'est vraiment une forme d'écriture qui me convient merveilleusement. Et à la fin de la semaine, je me suis dit, ben, j'adore faire ça, je vais continuer. Et en fait, je ne pouvais pas. Parce que sans la finalité, le journal Libération, en l'occurrence, je ne pouvais pas continuer à le faire. Il n'y avait pas d'incitation suffisante. Enfin, ça n'existait plus. J'ai également fait pour France Culture mais en particulier des chroniques comme ça, qui s'appelaient Les filles sont au café, qui étaient exactement le même principe, ce mélange que j'aime donc beaucoup de dialogues, de conversations entre des femmes dans un café. En plus, les femmes au café, c'est un petit clin d'œil, c'est toujours bien qu'il y ait des femmes au café, c'est bien qu'il y en ait partout. Donc, et parlant des événements politiques, du journal, d'un ouragan, de la tempête, même de choses éventuellement fantastiques. Et j'aimais beaucoup ce mélange-là, mais absolument, c'était plus la contrainte de rendre le texte pour France Culture, faisait pas.
Le mélange dont vous parlez, trivial, imaginaire, et tout le mélange dont vous venez de parler, Geneviève Brézac, on le retrouve aussi dans l'écriture elle-même, ce qu'on appelle trivialement d'ailleurs, le style, l'écriture qu'on retrouve quand on lit. Et on trouve ce mélange entre une forme de profondeur et une légèreté. L'humour là dont vous faites preuve en parlant, l'humour est constant dans les livres que vous avez écrits. Est-ce que pour vous c'est une intention de rendre les choses qui sont familières et donc parfois, même pas peut-être souvent, assez graves, les choses qui nous sont proches et qui sont lourdes à porter, légères?
C'est central. C'est ce qui est le plus important pour moi. Oui,
donc ça, c'est une intention. Oui. Comment on y arrive?
Entraînement.
Non, ça ne suffit pas, ça, Geneviève Brézac. J'allais un peu plus loin. Il y a aussi une forme de simplicité de votre écriture. Les filles, qui est donc votre premier roman, était une écriture même sèche, avec des phrases très courtes. Les textes sont souvent courts, hein. J'en ai amené quelques-uns. Les auditeurs qui sont spectateurs dans cette salle le voient bien. Ce sont des textes souvent courts. Est-ce que ça veut dire qu'on atteint au but, donc rendre des choses légères, profondes par la légèreté, par une sorte d'économie de moyens ou de sobriété ou de retenue, je ne sais pas.
Non, alors c'est certain que pour moi, c'est très important que les mots pèsent tout leur poids, justement. Il faut que l'air circule entre eux aussi. C'est un truc que disait aussi Virginia Woolf. Hein, et donc, je déteste le bavardage. J'adore le bavardage dans la vie courante, mais je déteste le bavardage.
Vous aimez parler, mais pas le bavardage.
Non, je déteste les gros livres pleins de mots qui disent rien. Ça, j'ai horreur de ça.
Mais les gros livres pleins de mots qui disent plein de choses, ça existe? Pas beaucoup.
À mes yeux, pas tant que ça. Non. On ramasse des objets, des sensations, etc., etc., qu'on fait réduire. Il en reste presque rien, ou l'essentiel, l'os. Et puis, ça reprend sa forme, ça se réenfle dans la page d'écriture.
C'est exactement votre façon d'écrire, à vous, Geneviève Brézac. Oui. Vous commencez par des livres de 500 pages qui en font de 200 au final.
Non, à bas les livres de 500 pages.
Vous enlevez, vous élaguez en permanence.
Non, mais en plus, c'est un truc que j'écris aussi dans La Marche du Cavalier. Moi, j'adore la nouvelle, j'adore les scènes, j'aime qu'on garde les 5 minutes essentielles, j'aime ce qui est condensé, c'est vrai. J'aime la poésie en littérature. J'aime Stendhal et moins Balzac. Voilà, j'aime ce qui fait rire et ce qui fait pleurer.
Alors, on parlait de votre univers. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants et d'enfance. Des personnages qui sont tirés de vos proches, de votre famille, de vous-même. Et pourtant, il est des personnages...
Enfin, tirés de plein d'autres gens aussi.
Bien sûr. Mais avant tout, disiez-vous, vous partez de vous-même et de votre entourage.
On risque moins les clichés quand on parle de ce qu'on connaît bien. Hein.
Votre entourage va jusqu'à une voisine.
Oui.
Là, on sort vraiment du cadre
familial.
Le cadre familial, c'est pour l'écriture de fiction, puisque les essais, vous êtes allé chercher des femmes écrivains et même assez loin. Mais de quoi est partie cette envie de rencontrer cette femme voisine, qui est à nouveau une femme, mais qui est une voisine
que vous
ne connaissiez pas.
C'est passé par la littérature. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Jenny Plecky, ma voisine, du dessus, donc...
Qui a donné donc Vie de ma voisine, le dernier livre que vous avez écrit, Geneviève
Brisac. Voilà, dans lequel je raconte sa vie. C'est passé par, justement, ce livre sur Flannery O'Connor. Elle était très contre que j'écrive un livre sur elle. Et un jour, je lui ai dit, mais si j'écrivais un livre comme celui que j'ai écrit sur Flannery O'Connor, Loin du paradis. Et là, elle m'a dit, ah ben alors, dans ce cas-là, pourquoi pas. C'est-à-dire un livre qui mélange encore le mélange des genres, qui mélange les voix... qui mélange les registres, qui mélange le présent et le passé, qui mélange son destin de jeune fille qui on a arraché ses parents, qui sont morts à Auschwitz, et nos rencontres à nous aujourd'hui, en 2016 ou 2015. Alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'était ça votre question. On s'est rencontrés autour d'un autre écrivain, qui n'est pas Flannery O'Connor, qui est Charlotte Delbo. Moi, j'avais fait une émission à France Culture,
On y revient toujours.
Et donc, Jenny Plecky avait entendu cette émission. Je venais de m'installer dans cette maison. Et elle m'a abordée en me disant, je veux vous parler. Donc moi, j'ai fait un bond en arrière parce que je suis très timide. Et elle aussi, comme elle est également très timide, elle a fait un bond en arrière. Donc on a toutes les deux fait deux bonds en arrière. Puis elle est revenue parce qu'elle est quand même très têtue aussi. D'ailleurs, moi aussi. Et elle m'a dit, non, mais je ne veux pas vous embêter, je veux vous parler de Charlotte Delbo, c'était une amie, je l'ai très bien connue. Et là, mon cœur, évidemment, a bondi, et on s'est rencontrés, et quand elle m'a raconté son destin, donc son destin à travers le siècle, à travers la guerre, etc., enfin, je peux vous raconter...
Les auditeurs liront le livre, voilà. Ceux qui n'ont pas encore fait.
Eh bien... En fait, j'ai décidé... Alors là, vous me demandiez quand est-ce qu'on décide d'écrire un livre. Ce livre a... J'ai su qu'il y aurait un livre. Parce qu'en fait, ce n'est pas exactement qu'on décide d'écrire un livre. C'est qu'à un moment donné, on sait que ce livre, il va falloir le faire. Quoi. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et j'ai su que ce livre, il fallait le faire quand elle m'a raconté... Cette journée du 16 juillet 42, donc la rafle du Veldiv, où sa famille et elle sont arrêtées par leur voisin, un flic nommé Mulot, qui ne s'invente pas quand même, qui les embarque dans une villa à Vincennes où tous les juifs de Vincennes sont rassemblés. Et le commissaire de police surgit et leur dit « les enfants français peuvent partir ». Or, il se trouve que Jenny et son frère sont français, les parents... ont demandé la naturalisation pour eux. Et donc, les deux parents, sans se concerter, disent « Vous partez ». Et là, pendant 2 heures, la mère de Jenny, Rivka, dont elle parle magnifiquement bien, et c'est ça qui m'a vraiment emportée, lui dit « Écoute, ma fille, il faut que je te dise tout ce que tu dois savoir pour toute ta vie, parce que je ne vais pas te revoir. » Et donc, elle lui dit tout. Elle lui dit ce qu'elle pense de l'amour, des hommes, de la sexualité, aussi de comment elle va faire pour survivre, du travail, du fait qu'une femme doit toujours travailler. C'est une... Elle lui transmet, quoi. Elle lui transmet tout. Et quand c'est vrai que le défi de ce partage-là, il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre, hein, il y a d'autres transmissions, mais raconter cette scène, c'est vrai que j'ai su qu'il fallait que je le fasse. Alors j'y ai été beaucoup encouragée, entre autres par mes filles d'ailleurs. Mais je voulais le faire.
Et vous en parlez comme d'un roman vrai de Vie de ma voisine. Ça veut dire quoi, un roman vrai? Par rapport à un récit, par rapport à un roman, par rapport à...
Ben, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est un roman vrai. Voilà.
C'est quoi un roman faux, alors?
Oui. Ben,
c'est vous qui savez.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, là, la part dans ce livre-là, contrairement à d'autres, j'étais quand même tenue par la réalité, tenue plus fortement par la réalité que quand j'écris petite. C'est un récit, c'est même pas un roman vrai. C'est un récit. Enfin, c'est mon histoire, hein, je peux faire ce que je veux, après tout. Mais là, c'est l'histoire de Jenny Plocky. Je ne sais pas comment dire, l'honnêteté est essentielle. D'ailleurs, je crois que je le dis à un moment donné, l'honnêteté de l'écrivain, c'est un paramètre très important qui n'a presque d'égal que la malhonnêteté, finalement. Mais l'honnêteté est très importante. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'être au plus près de ce... de son être, de son... Et c'est sa vraie vie.
Donc, quand vous racontez une année avec votre père, dans une année avec mon père...
Aussi.
Oui. Est-ce qu'il y a des limites quand on raconte...
Mais week-end chasse à la mer, non.
Non, bon, après, on peut faire des catégories, mais ça, c'est pas forcément ce qui va intéresser le plus nos auditeurs. Mais est-ce que dire des choses... à partir de faits vrais, donc, à des limites. Est-ce que cette honnêteté, ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas blesser les gens de son entourage? Ça peut commencer par changer des noms propres, ça...
Oui.
Je travaille sur l'honnêteté, sur la vérité du roman, là.
Oui, oui, c'est vrai que vous avez été juré d'un tribunal de la fiction, donc c'est votre...
Juge.
Oui, pardon.
Juge.
Oui. J'aurais aimé témoigner dans ce tribunal. Mais
vous auriez dit quoi?
Hein?
Vous auriez dit quoi, justement?
J'aurais...
Est-ce que la fiction est accusée? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une distinction entre les faits et la réalité?
Pour les écrivains, c'est impossible.
Les faits et la
fiction,
c'est une
catastrophe. Pour un écrivain, jamais ne pourra rendre compte. Enfin, il y a toujours une forme de procès. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y a une culpabilité de l'écriture. Il y a une culpabilité profonde, nécessaire, naturelle de l'écriture quand vous écrivez.
De l'écrivain ou de l'écriture?
De l'écrivain. Vous savez que vous êtes en train de... Mais d'ailleurs, c'est vrai pour les autres arts aussi. Vous savez que vous faites quelque chose qui est, par certains côtés, dangereux. C'est obligé. Alors, en particulier l'écriture, plus que pour d'autres arts, je crois... parce que vous marchez le long d'une ligne de secret, d'une ligne de crête, d'une ligne de danger. Et d'ailleurs, c'est pas du tout... Alors, c'est pas parce que les gens sont fous qu'ils deviennent écrivains, c'est pas parce qu'ils écrivent qu'ils deviennent fous, mais il y a quand même de la parenté. Il y a quand même... On travaille sur la faille. Hein. C'est une histoire de faille, je crois, pour créer quelque chose utile. Donc, je suis très embêtée par ce... Quelque chose qui vaille la peine, on va dire, plutôt qu'utile. Quelque chose qui va rester, peut-être, c'est comme ça que je le dirais. Comme c'est une lutte contre la mort, c'est dangereux. Toutes les luttes contre la mort sont dangereuses.
Qu'est-ce que vous voulez dire par lutte contre la mort, Geneviève Brézac?
Ben, l'art, c'est une lutte contre la mort. Hein. C'est pour soi et puis pour les autres aussi. Et c'est d'ailleurs... Enfin, oui. C'est tout.
Est-ce que, du coup, ça veut dire que vous êtes très sensible à tout ce qui a trait à votre livre après, c'est-à-dire une fois que le livre paraît, sachant que vous y avez mis l'honnêteté, la vérité que vous avez cherchée, est-ce que vous êtes sensible à la réception de vos livres?
Trop.
Ouais. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire
que vous ne regardez pas les critiques parce que vous avez peur? C'est-à-dire que...
Je les regarde pas, mais en fait, je les regarde. Enfin, c'est un peu comme tout le monde. Hein. En fait,
ah, je sais pas, il peut y avoir des choses, des gens très, très différents, des réactions très différentes.
D'abord, il y a des gens assez menteurs.
Ce qui n'est pas votre cas.
Non. Je ne suis pas très menteuse. C'est-à-dire, je suis d'autant moins menteuse que je suis très mauvaise menteuse. Donc, j'ai fini, comme quand même, j'ai plus 14 ans, je sais que je suis tellement mauvaise menteuse qu'il vaut mieux que je ne mente pas trop. C'est quand même très, très visible. Et donc, je suis très mauvaise aussi, receveuse de ben, je pense toujours à Virginia Woolf, dans ces cas-là, qui m'a beaucoup aidée, parce que dans le journal de Virginia Woolf, il y a d'innombrables chapitres sur la souffrance qu'elle éprouve quand un de ses livres paraît. Et alors, j'ai une explication.
À quoi ?
À ça. Pourquoi est-ce
à cette sursensibilité ?
Ça j'en ai plein. Mais...
La réception d'un livre.
Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une raison. La première raison, c'est que si un livre est reçu et il est lu, à ce moment-là, il va vivre, il va se déployer. Ses ailes vont se déployer. Il va. C'est même pas pour soi, c'est lui qui va. Oui, c'est vraiment comme un oiseau, en fait. L'image de l'oiseau, c'est-à-dire que les pages du livre, c'est un peu une image ridicule à la Folon, mais c'est vrai que c'est quand même un peu quelque chose comme ça. Le livre se déploie et il existe. Et s'il n'est pas reçu, ce qui arrive quand même assez souvent, il sombre.
Ça vous est arrivé ?
Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé à peu
près. Une déception
affreuse, oui, de chagrin. Atroce.
Un livre qui ne rencontre pas son public.
Oui, parce que, et puis en plus, évidemment, on ne peut pas ne pas penser que c'est juste qu'il est mauvais. Et on ne peut pas faire autrement.
Et
d'ailleurs,
Virginia
Woolf elle-même le disait.
Comment on passe au livre suivant, Geneviève Brézac, dans ces cas-là ? Ou est-ce qu'on va puiser une énergie, une force qui nous
alors,
remet
j'ai observé chez mes collègues
travail.
Écrivains que quand ils ont publié un livre qui a eu du succès, c'est beaucoup plus facile de se mettre au suivant. Que quand le livre n'a pas...
Je ne parle pas des collègues d'écrivains, je parle de vous, là.
Moi, j'aime beaucoup mieux parler des collègues d'écrivains. Eh bien, pour moi, c'est pareil. C'est plus difficile. Oui. C'est plus difficile parce que le doute, parce que la fameuse foi, elle est ébranlée, et donc il faut la réactiver. Quoi.
Les prix, vous y êtes sensible. Vous écrivez, est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire un livre, peut-être prenons « Week-end de chasse à la mer » qui a reçu le prix Femina.
Non,
il était écrit dans l'optique d'avoir un prix.
Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, c'était pas du tout un... Enfin, je vais pas dire que c'était un mauvais prix Femina parce que je vais me faire engueuler, mais... Non, j'adore les prix. J'adore les récompenses. Mais j'y crois pas du tout. Donc, c'est un peu la contradiction, si vous voulez. Je me souviens très bien du jour où j'ai eu le prix Femina. Donc... il y avait, on vous annonce que vous avez le prix Femina, et vous dites, c'est complètement idiot, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est donc il y a cette espèce de doute qui vous envahit, et l'avantage de ce doute, c'est qu'il est très communicatif. Donc assez rapidement, tout le monde est d'accord, quoi. C'est qu'effectivement, ça ne doit pas être vous, et que c'est comme ça, le chemin est long.
Vous avez commencé avec des pièces de théâtre, vous aviez écrit des pièces de théâtre, vous avez écrit un scénario de film, je disais en commençant cet entretien, Geneviève Brézac.
Un film que j'aime beaucoup.
Non, tu n'iras pas danser.
Non, ma fille, tu n'iras pas danser.
Non, ma fille, tu n'iras pas danser, tout à fait. Une histoire de fille aussi, de sœur, bon, qui vous ressemble, on va dire, ou qui ressemble à vos livres aussi. Ça s'arrête là, l'expérience cinématographique ?
J'attends les nombreux producteurs qui sont dans la salle. Les réalisateurs qui, voilà.
Donc ça veut dire que c'est une expérience qui vous a plu aussi,
j'ai
vous
adoré
amusé.
Ça, oui. C'était très, très amusant.
Travail de collaboration.
Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais effectivement, moi, j'adore travailler à plusieurs, qui dans l'écriture des livres n'est effectivement pas... Donc, j'aime aussi écrire des livres à plusieurs, même si c'est une erreur, parce qu'on partage les avaloirs, les droits, enfin, c'est lamentable. J'aime écrire des pièces de théâtre. J'ai aussi, écrit aussi une pièce à deux. Enfin bon, ouais, j'aime ça.
Ça change quoi ? Ça vous apporte
d'être
quoi ?
Plusieurs ?
Oui.
Ben, c'est beaucoup plus rigolo.
C'est dans l'idée du partage, là encore ?
Oui. Oui, et puis...
C'est une contrainte supplémentaire aussi d'écrire à plusieurs. Pas seulement rigolo.
Si, c'est rigolo.
Donc il faut recommencer. Et adapter vos livres au cinéma. C'est quelque chose auquel vous avez pensé ? Personne ne vous cherchait, c'est ça ?
Je ne dois pas être convaincante, je pense.
Est-ce que vous acceptez, Geneviève Brézac, que vos livres, une fois écrits, vous échappent ?
Ah oui,
c'est-à-dire qu'ils ne vous appartiennent plus ? Il y a quel moment vous pensez que le livre ne vous appartient plus ?
Déjà, je pense que pas grand-chose m'appartient. Donc, alors, en particulier mes livres, alors là, vraiment, totalement. Mais j'en ai une conscience très, très aiguë, d'autant que j'ai observé depuis le temps que personne ne lit les livres de la même manière. Donc ça, je sais que... qui ne m'appartiennent pas du tout. Un livre appartient à sa lectrice ou à son lecteur. Et quand j'interroge des amis sur qu'est-ce qu'ils ont lu, et ils ont lu, les ennemis, je les interroge moins, mais ils ont lu leur livre. Il y a autant de lectures que de personnes.
Des amis, des inconnus aussi ? Est-ce que vous faites des rencontres avec le public en librairie ?
Oui, mais les inconnus en librairie, où ils vous racontent... ils peuvent difficilement se permettre de vous raconter comment ils ont lu vraiment le livre. C'est des rencontres souvent fugaces. Mais je sais que chacun... Et alors, c'est même assez tragique, parce que je me souviens d'une libraire que je ne nommerai pas, qui un jour, je faisais une lecture dans sa librairie, et je savais qu'elle m'avait un peu invitée, contrainte et forcée, parce qu'elle n'aimait pas tellement ce que j'écrivais. Et donc, et à la fin de la lecture, elle me dit « Waouh, mais c'est vachement bien !» Je lui dis « Ben ouais, je sais, c'est pas tant !» Et elle me dit « Mais je ne savais pas !» Je dis ben, « Oui, je sais que tu ne sais pas, mais... » Et elle me dit « Mais... » Parce que quand on t'écoute, c'est beaucoup mieux que quand on lit soi-même. Je dis ben, « Oui, mais je ne peux pas non plus... » Enfin, si, je pourrais, mais je ne peux pas... Comment c'est comme l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je ne peux pas être la femme qui murmurait à l'oreille des libraires. Je ne peux pas être, lire dans l'oreille de chaque... Enfin, je peux peut-être faire des lectures à France Culture, si vous voulez me proposer, lire mes livres à haute voix.
Ouais, c'est une question que je ne vous ai pas posée, ça. Si vous les lisez vous-même à haute voix, si vous écrivez en...
J'adore.
En lisant à voix haute, vos propres textes.
J'entends. Oui.
Pourquoi ? Parce que c'est la musique qui compte.
Oui.
Ça, pour le coup, beaucoup d'écrivains font ça.
Oui, c'est vrai. Là, je vois et j'entends. J'ai deux sens. Et je vois ce qui se passe, la scène, et j'entends le... Enfin, je suis au théâtre, en fait.
Oui, on y revient au théâtre. Oui. Hein. Et de même qu'on a commencé, Geneviève Brézac, par les premières phrases, ou même les premières phrases que... les souvenirs des premières phrases que vous aviez écrites, je voudrais terminer cette rencontre en vous demandant à quel moment considérez-vous qu'un livre est fini ? Est-ce que là, il y a une règle ? Est-ce que... Toujours, le mot fin est une évidence. Et à quel moment alors, ça sonne comme une évidence ?
Alors, très souvent, je termine mes livres un peu avant la fin.
Ça veut dire quoi, ça ?
Parce que je trouve que ça va comme ça. Et donc, souvent, mes amis me disent...
Il n'est pas fini.
Pas fini, fini. Mais aussi parce que moi, souvent, je trouve que, comme je suis quand même une très grande lectrice...
Ça, on l'a bien compris, on l'a bien entendu, oui.
Eh bien, il y a beaucoup de livres qui se terminent trop tard. Et...
Et vous êtes aussi éditrice. Hein, vous êtes aussi éditrice en disant ça.
Et ben oui. Et donc, qui pourrait se terminer bien avant, parce qu'on a vraiment compris. Et là, on fait 150 pages qu'on se promène et on en a marre. Donc ça, c'est rarement mon cas, vu, enfin, j'espère, du moins, vu l'épaisseur, parce que si on en a marre, bon, c'est fini depuis longtemps. Et par ailleurs, j'ai très peur d'ennuyer, ça ne vous a pas échappé. C'est un défaut. Hein. Et enfin, j'aime pas du tout qu'on m'ennuie non plus. Donc c'est la même chose. Et par ailleurs, à un moment donné, par exemple, en ce moment, je viens de terminer un livre dont le titre n'est plus très fixé, donc je ne vous le dirai pas, mais qui a eu un titre pendant longtemps. Il a eu son titre de travail, mais là, son titre pour naître, ça ne va pas être ça, je crois. Mais alors, ce livre, il est vraiment fini, fini. Mais, c'est-à-dire que je ne peux plus le supporter, là. Je n'en veux plus. Et pourtant, on me dit qu'il faut que je le travaille encore un petit peu, mais je ne veux plus le travailler parce que je vais tout détruire si ça continue. Donc, il est super fini, celui-là.
Et on va le voir bientôt.
Et voilà. Oui.
Ce qui est bien avec la radio, c'est que quand c'est fini, vraiment. Mm. Parce que l'heure est passée. Et c'est le cas. Merci beaucoup, Geneviève Brézac.
Merci à moi, Caroline. Je vous remercie.
C'était la masterclass de Geneviève Brézac avec Caroline Brouet. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchane Djergaillan.